Studio Tamani, voici les informations en français.
Bonsoir et bienvenue à cette édition au sommaire. Les orientations des admis ODF sont désormais connues. Plus de 62 000 élèves ont été envoyés aux établissements privés, 29 500 au public et plus de 41 900 aux filières professionnelles. La demande de liberté provisoire des 11 leaders politiques a été rejetée ce mardi. Ils restent en prison en attendant leur jugement. Le chef de la diplomatie malienne a dénoncé ce lundi en Russie la politique de deux poids, deux mesures du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdoulaye Diop a révélé que le Conseil n'a même pas accusé réception de la plainte du Mali contre l'Ukraine. Ces titres vous seront développés tout à l'heure. Vous avez Moumine Sendebou à la présentation et Adjiratou Traoré assure la mise en onde. Comme annoncé dans les titres, les orientations pour les admis ODF, diplômes d'études fondamentales, sont désormais connues. Le document a été rendu public ce 11 novembre. Le ministère de l'Éducation nationale affirme que les critères d'orientation reposent fondamentalement sur l'âge et la scolarité de l'élève. Sur les 133 606 admis à l'examen, 62 040 ont été envoyés aux établissements privés et 29 594 au public. Concernant les filières professionnelles, 34 557 sont orientés aux écoles privées et 7 415 au public. Le point avec Mamadou Samassikou.
C'est donc après près de 4 mois d'attente que les orientations du DF ont été publiées. Le ministère de l'Éducation nationale explique ses retards par la mise en œuvre de certains travaux préliminaires. Souleymane Aliou, directeur de la cellule de planification des statistiques, CPS.
On était parti vers l'évaluation des établissements d'enseignement secondaire, c'est-à-dire réajuster tout ce qui est ajusté par rapport à la prise en charge, à la répartition des élèves entre le public, le privé, le professionnel, le général. Il fallait faire tous ces ajustements, rester dans l'ardoise budgétaire pour que les élèves eux-mêmes puissent être répartis entre les établissements. Le processus d'évaluation a fait un peu retarder le début des travaux au niveau national.
Les parents d'élèves regrettent ce retard accusé. Ils demandent aux responsables de l'école de le prendre en compte dans l'exécution du programme scolaire de ces nouveaux admis. Daouda Sakho, secrétaire général adjoint de l'association des parents d'élèves du Mali.
Bon, on peut parler de lenteur parce que ça sort de l'ordinaire. Mais je sais qu'en amont, il y avait des problèmes avec beaucoup d'écoles. Vous savez, il y a des écoles privées qui reçoivent les nouveaux admis de l'EFA. Donc, il faudrait que nous prenions conscience de cet état de fait pour essayer de combler progressivement le retard qu'a accusé la rentrée des nouveaux admis du DF.
Le ministère de l'Éducation précise qu'il n'y a aucun élève non orienté. Il rappelle aussi que les résultats des travaux d'orientation des élèves peuvent être consultés sur le site www.porteeduc.ml.
18h passées des 3 minutes. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Les 11 leaders politiques restent en détention ce mardi matin. Leur demande de liberté provisoire a été rejetée. Ils retournent donc en prison. Pour rappel, ces 11 leaders politiques ont été arrêtés il y a plus de 4 mois lors d'une réunion dans le domicile de l'un d'eux. Ils ont ensuite été placés sous mandat de dépôt pour atteinte à l'ordre public et opposition à l'exercice de l'autorité légitime par le parquet du tribunal de la commune 5 du district de Bamako. Par la prison de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a fustigé ce lundi l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis de la plainte du Mali contre l'Ukraine devant l'ONU. Selon lui, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a même pas accusé réception de la plainte introduite par l'Alliance des États du Sahel, AES, contre Kiev. Cette déclaration a été faite à Sotchi par le chef de la diplomatie malienne à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Dramane Maïga nous fait le point.
Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est félicité tout d'abord des réalisations obtenues à la suite du sommet tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg en Russie. Selon lui, la quasi-totalité des engagements pris lors de ce sommet, notamment dans les domaines humanitaires et de l'agriculture, ont été exécutés ou sont en cours d'exécution. Par ailleurs, Abdoulaye Diop a dénoncé la politique deux poids deux mesures de la communauté internationale face à la saisine de l'ONU par les États de l'AES. Est-ce qu'il existe une communauté internationale? Est-ce qu'elle est vraiment internationale? C'est fait interroger le ministre Diop dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Le chef de la diplomatie malienne motive ses interrogations par le fait que les trois pays de l'AES ont porté une plainte, selon lui, très claire et simple devant le Conseil de sécurité relative au soutien de l'Ukraine au groupe terroriste. Selon lui, Kiev a déclaré ouvertement via ses officiels et ses diplomates qu'elle soutient activement en renseignement et en moyens logistiques des groupes terroristes dans le nord du Mali, ce qui est totalement inacceptable et intolérable pour le patron de la diplomatie malienne. Le ministre Diop a révélé qu'à ce jour, le Conseil de sécurité n'a même pas accusé réception de cette plainte. Cette déclaration intervient près de trois mois après la saisine, le 19 août dernier, du Conseil de sécurité par le Mali, le Burkina et le Niger. Une saisine consécutive à la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine.
10 morts, dont une femme et ses 8 enfants, et un blessé. C'est le bilan de l'attaque contre le village de Pansadougou, commune de Lesago à Bankassa. Le drame s'est déroulé ce lundi. Des hommes armés non identifiés en sont à l'origine. Selon des sources locales, la situation est actuellement calme. Par ailleurs, à Bandiangara, un important mouvement des déplacés a été constaté ces dernières semaines. Ces déplacés demandent de l'aide afin de subvenir à leurs besoins. Pour le chef du service de développement social et de l'économie solidaire, des organisations humanitaires ont apporté leur soutien à ces derniers de différentes manières. Cap sur une nouvelle sportive. La Fédération malienne de football a remis hier des licences professionnelles aux 4 clubs qui vont jouer le championnat national Ligue 1 professionnel cette saison. Ces équipes ont été reconnues par la CAF comme club professionnel, rassurent les responsables de la FIMAFOOT. Khalifa Goïta nous en dit plus.
Le samedi 23 novembre 2024 restera à jamais dans les annales du football malien. Pour la première fois, le championnat se professionnalise. Abdoulaye Konaté, président de la commission média de la Fédération malienne de football.
La tendance est vers le championnat professionnel. C'est les exigences de la CAF. Les joueurs en ce moment vont être payés officiellement. Ils vont être inscrits à l'INPS. Les clubs aussi vont avoir une assurance. Rassurez-vous, le championnat est compétitif et le championnat va continuer à se renforcer.
Les clubs bénéficiaires ne peuvent que se réjouir d'un rêve qui devient une réalité. Fatoumata Keïta, secrétaire générale d'Afrique Football Elite.
Moi, je suis très très contente parce que ça fait longtemps qu'on cherchait ça, que le football malien était amateur.
Comment vous voyez la saison déjà?
C'est la première année, on va se battre jusqu'à la fin pour avoir le maintien. Ça, c'est notre objectif.
Par ailleurs, une formation de 4 mois pour l'obtention de la licence BCAF a débuté ce lundi. Elle est initiée par la FIMAFOOT. 25 entraîneurs sont concernés.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Ce qui nous conduit à notre rubrique dossier de la semaine. À l'occasion de la rentrée scolaire, le port de la tenue est une exigence dans certains établissements et facultatif dans d'autres. Le port de la tenue permet de mettre tous les élèves sur les mêmes pieds d'égalité, indiquent des responsables scolaires. Que pensent donc les élèves du port de la tenue scolaire? Qu'en est-il pour les parents d'élèves? Des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Amadou Sadio Camara.
Dans cette école publique de Bamako, le port de la tenue scolaire a été restauré par les responsables pour lutter contre les inégalités et les différences sociales. Sengipiri Aljuma est le directeur du second cycle.
Là où je suis directeur, la tenue est obligatoire. Voilà, donc nous avons fait de telle sorte que les enfants des pauvres aussi soient à l'aise en classe avec les enfants des riches.
Cette norme vestimentaire est aussi restaurée dans de nombreuses écoles privées. Mohamed Ba, directeur d'un de ces établissements, affirme avoir rendu obligatoire le port de la tenue scolaire. C'est là pour plusieurs raisons. Et l'enseignant précise que ceux qui ne se plient pas à cette règle sont passibles à des sanctions.
Le port de la tenue est obligatoire parce qu'on a constaté à un moment, il y avait des élèves qui portaient des tenues insupportables. Donc on était obligé d'insourer les tenues. Bon, c'est obligatoire de respecter. Si tu ne respectes pas, je te mets à la porte.
Au regard de ces affirmations, que pensent donc les premiers concernés du port de la tenue scolaire? Il s'agit bien évidemment des élèves. Écoutons ces avis.
Bon, vu que le port de la tenue est de mettre les élèves sur les mêmes pieds d'égalité, donc moi, je le portais sans problème. Je n'aimais pas porter notre uniforme. uniforme scolaire parce que les t-shirts étaient en soie, donc ça me gênait.
On nous l'a amené gêné.
Moi, j'ai porté la tenue parce qu'elle me permettait d'éviter de toujours salir mes autres habits.
Du côté des parents d'élèves, on avance de nombreux avantages dans le port des uniformes scolaires.
Le port de la tenue nous facilite la tâche, notamment l'achat des habits.
Si les élèves portent la tenue, ils sont mieux identifiés comme des écoliers et les gens leur cèdent souvent la route.
Et pourtant, le port de la tenue scolaire est devenu facultatif après certaines plaintes exprimées par certains acteurs de l'école. C'est ce qu'indique Anita Koulibaly, chef section à la formation au sein de l'Académie d'enseignement de la région d'Issegou.
Avant, on voyait le caractère obligatoire du port de la tenue. Mais de nos jours, avec les nombreux problèmes, tout ce que le CGS, les parents d'élèves, l'AME soulignent comme problème financier, la latitude est laissée à chaque établissement de s'organiser avec ses partenaires pour, s'ils réussissent, pour le port de la tenue scolaire.
Il faut noter que le port de la tenue scolaire ne profite pas qu'aux acteurs scolaires, car certains tailleurs rencontrés affirment également en tirer profit en termes de couture, même s'ils indiquent à l'égistre peu de commandes cette année comparé à l'année précédente.
C'était bien un dossier signé Amadou Sadio Camara et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez nous faire parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Vous pouvez aussi réécouter ce journal et les magazines qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit, toutefois vous devez avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Ne décrochez tout, surtout pas, le programme continue. La solidarité entre les femmes est une réalité au Mali depuis toujours, selon les traditionalistes. Au cours des événements sociaux tels que le mariage, le baptême et le décès, les femmes s'organisent et apportent de l'aide à celles qui en ont besoin. Elles se manifestent parfois par un soutien physique, psychologique ou même matériel. Mais de nos jours, les traditionalistes et experts en genre estiment que cette solidarité féminine a changé de fond et de forme. Les détails dans ce magazine réalisé et présenté par Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
Auparavant, les femmes étaient bien organisées dans le but d'être plus fortes pour le développement de la société. C'est ce qu'explique ici Sidiki Kouyaté, traditionnaliste.
Elles se traduisaient par le fait que les femmes disaient oui ensemble ou non ensemble, donc d'où l'expression souvent tafefanga. À chaque fois que la société avait besoin de mobiliser en tout cas les citoyens pour défendre les intérêts collectifs, il était facile de mobiliser les femmes.
Aujourd'hui encore, cette solidarité continue d'être perpétrée par des femmes. Des exemples sont cités à Gao, lorsque la gente féminine s'était mobilisée aux côtés des femmes démunies pendant les inondations. Aussi, même lors des déplacements forcés des femmes dans certaines zones d'insécurité. Maïga Lala Maïga, présidente régionale de la coordination des associations et ONG féminines de Gao.
La CAPO a eu à mener des activités de sensibilisation sur tous les sites des déplacés et des quartiers cibles VVG, des remises de kits aux populations déplacées, démunies et sinistrées. Des inondations en vêtements, seaux, tasses, bols, assiettes, en partenariat avec le conseil régional de la jeunesse de Gao. Et en plus, nous avons formé 250 sur les sacs écologiques.
À Bamako, Ségou et Yoroso, des femmes estiment que la solidarité entre femmes se manifeste par le soutien mutuel dans des moments de bonheur et même dans des situations difficiles.
Les femmes de Yoroso sont battantes et elles s'entraident. Une femme qui a un champ s'est fait aider par les autres. On a même une association pour cela.
Dans beaucoup de services, vous verrez que la solidarité, elle n'est pas aussi que ça. Mais dans les quartiers, ils s'entraident moralement et puis souvent quand il y a besoin d'assistance financière, elles
ici à Ségou, les femmes ont plusieurs manières de s'épauler. On a une tontine appelée Tegereni dans laquelle on peut emprunter de l'argent pour nos activités génératrices de revenus.
Et pourtant, la solidarité entre femmes a bien évolué au fil du temps. Pour le traditionnaliste Sidiki Kouyaté, s'entraider sans rien attendre en retour perd son sens à notre époque.
Avant, c'était juste avec un esprit solidaire que les femmes contribuaient à chaque fois qu'une autre femme avait des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est devenu une sorte de donnant-donnant. Et donc, l'esprit solidaire a tendance à disparaître un petit peu. Alors que quand c'est solidaire, chacun contribue tant qu'il peut, selon ses moyens.
Pourtant, la solidarité féminine a beaucoup d'avantages si elle est bien exploitée, affirme Kumbaba, experte en genre. Elle peut aussi renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble dans les familles, voire dans les pays.
C'est quand une femme avance, tout le monde avance avec elle. Elle aide à élever, à soulever. C'est beaucoup plus la coopération plutôt que la compétition. Développer la collaboration. Parce que quand les femmes ne sont pas ensemble, nos pays vont en reculant.
Pour intensifier la solidarité entre femmes, le sociologue Kassim Dambélé à Ségou insiste sur l'entraide, mais aussi la lutte contre les inégalités hommes-femmes.
Renforcer leur confiance en elles-mêmes et promouvoir l'entraide, la solidarité entre elles. Encourager la création des réseaux de soutien en femmes pour partager les expériences. Encourager les femmes à travailler ensemble sur des projets communs, à s'entraider dans leur démarche professionnelle ou entrepreneuriale. Organiser des actions collectives pour défendre des droits, lutter contre les inégalités.
Pour être plus épanouie sur le plan politique, économique, culturel et même dans la vie quotidienne, nos interlocuteurs estiment que les femmes doivent s'unir davantage et mettre en avant l'intérêt commun.